Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 64e épisode, épisode numéro 63. Nous sommes le 16 février 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud, qui êtes-vous ?
Bonjour, Arnaud, je travaille à Clever Cloud depuis quelques années maintenant. Et dans la boîte, je m'occupe de différents sujets infra, développement, d'add-on, ce genre de choses. Voilà. Un peu de support aussi, de temps en temps.
Nous sommes également en présence de Pierre Zemb. Bonjour Pierre, qui êtes-vous ?
Bonjour à tous. Moi je m'appelle Pierre. Ça va faire bientôt un an que je suis chez Clever. Et en ce moment, je fais du plugin KeyCloak.
KeyCloak. Et enfin, nous avons l'honneur de recevoir un invité de prestige, j'ai nommé David Brasley. Bonjour David, qui êtes-vous ?
Bonjour messieurs, donc David, je suis architecte chez Gravity.io, une plateforme d'API que l'on a créée avec d'autres collègues il y a de ça 5-6 ans maintenant.
Cool. Et du coup, Gravity, ce serait pas une boîte lilloise ?
Carrément, c'est une boîte lilloise. Je peux te faire le débrief en ch'timi si vous le souhaitez. Mais je suis pas joueur. Je pense pas avoir le bon accent pour ça. Peut-être en version belge, mais pas ch'timi. Mais oui, effectivement, du coup, Hubert, Gravity, une solution lilloise. Donc je l'ai dit, créée il y a 6 mois avec d'autres personnes.
6 ans.
Que tu connais bien également, et que l'on a poussé sous licence Apache V2 et qui connaît un certain succès, je dirais, maintenant, et voilà.
Ouais, tu fais le modeste, mais du coup, je dis lillois, mais vous avez beaucoup grossi, vous avez des gens qui viennent d'un peu partout maintenant, je crois, dans les employés, ouais. Et puis vous avez levé un peu d'argent, je crois aussi. Ça marche
ouais,
pas mal,
ouais.
Quoi.
Ouais, non, franchement, ça marche pas mal. Effectivement, on n'est plus que lillois. On couvre d'autres régions françaises. Et puis, au-delà de la France, maintenant, il y a des bureaux en UK, aux US, avec une répartition des différents rôles et positions stratégiquement entre les différents produits et continents. Mais ouais, effectivement, on est loin de la petite start-up lilloise avec 4... pisseurs de code, effectivement, les temps changent, mais ça rend pas moins l'expérience et puis l'aventure hyper, hyper intéressante. Et puis ça permet aussi de sortir un peu de son cadre de développeur et d'apprendre plein de nouveaux métiers et de nouveaux ouais. Métiers. Tu te poses toujours la question de ce mec-là, mais en vrai, il a rejoint ta boîte et qu'est-ce qu'il va faire exactement dans son quotidien. mais voilà, non, franchement, c'est top et une super, super aventure, quoi.
Cool. Et je me permets une dernière question sur le plan technique. Du coup, dans mes souvenirs, vous avez beaucoup de Vertex.
Yes.
Donc, c'est une stack essentiellement Java, mais pas que. Quand j'installe un Gravity, il y a quoi sous le capot ?
Eh bien si, en fait, il y a principalement à 95% du Java, si je mets la partie front, tu m'excuseras, mais clairement, ouais, Gravity, tout le socle, toute la plateforme de Gravity, parce que Gravity, en fait, on le précise pas assez, mais on parle maintenant de solution d'API plateforme et pas forcément de d'API management, qui était un peu finalement la genèse et le produit historique de Gravity. Vous parliez de KeyCloak, je pense que c'est toi, Pierre, qui en parlait juste avant. On a pendant KeyCloak chez Gravity qui s'appelle Gravity Access Management qui couvre les mêmes aspects plus ou moins mais ouais, sous le capot c'est du Vertex, c'est quelque chose que l'on a utilisé je pense depuis une version 3.0 de Vertex, donc il y a déjà quelques temps. On est passé sur la version 4x le mois de mai-juin 2021, mais on est clairement sur du Vertex, sur du Netty sous le capot et quasiment que ça. Et sur la partie front, bon, c'est un peu plus classique, ouais. Tout ce qui est Angular, et puis on essaye de se dépêtrer comme beaucoup de monde avec un vieux legacy Angular JS des bonnes familles.
Miam.
Mais voilà, ouais, exactement, miam.
Ah, cool. tu trolls sur Keycloak, je te troll sur Angular.
J'ai pas trollé, j'ai juste dit Burk. Mais non, franchement, c'est le produit Keycloak est vraiment un chouette produit également, et toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées récemment sont vraiment super intéressantes.
Yes. Super. Eh bien, David, bienvenue dans le podcast. On va commencer tout de suite par un lien, une annonce d'actualité de la CNIL. Donc, je ne dis pas un lien 2 parce qu'en fait, on a tous un peu eu les pieds froids pour parler de ce lien. Donc, c'est la CNIL qui met en demeure un gestionnaire de sites français pour son usage de Google Analytics. On avait les pieds froids parce qu'en fait c'est un sujet légal, juridique, technique, et forcément on a toujours peur de dire des bêtises. Donc déjà on vous redirige vers le lien de la CNIL, on l'a mis dans les show notes vers un lien de notre collègue Guillaume Champeau qui est revenu un peu sur cette affaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est, si j'ai bien compris, et messieurs, j'ai le texte sous les yeux, mais n'hésitez pas à rebondir, ce qui pose problème, c'est le fait que la CNIL n'arrive pas à vérifier que Google est capable d'isoler le stockage des données en Europe pour un Google Analytics qui est utilisé par un site donc en Europe sous RGPD. Et donc ils invitent le fameux site, et donc en fait n'importe quel autre site qui pourrait être inspecté, à se mettre en conformité sous un mois. Exactement. Donc ça fait un peu tempête dans notre milieu, en fait, parce que on est, alors nous chez Clever on n'en a plus, mais c'est pas si vieux que ça, et puis dans nos expériences respectives on a tous utilisé du Google Analytics, donc ça fait un peu Big Bang, genre mince, qu'est-ce qui se passe, quoi. Est-ce que vous avez des commentaires?
C'est
expert en juridique.
Peut-être pas expert, mais c'est vrai que ça fait un big bang. Moi aussi, j'ai eu deux, trois. On en parlait avec deux, trois potes. Pareil, ça, ils s'attendaient pas spécialement à ça. Même si, de ce que j'ai cru comprendre, c'est juste plus ou moins une confirmation de ce qui avait déjà été plus ou moins évoqué il y a un an et quelques, genre en juillet 2020.
Ouais.
Donc, on n'était pas non plus, on tombe pas non plus sur un sujet. Dont on s'attendait pas la chose, on va dire, quoi. Mais là, pour le coup, ouais, ça rentre dans le concret, quoi.
Et c'est utilisé par le commun des mortels, surtout Google Analytics, massivement.
Ouais, ouais. C'est très, très simple à mettre en place. Donc.
Peut-être parce que c'est très simple, que le produit est très complet.
C'est
mais
gratuit,
aussi,
non
parce que de base, il y a énormément de choses qui sont gratuites, ouais, forcément.
C'est ça.
Ouais, tu peux aller super loin déjà avec la partie gratuite de mémoire. Hein.
Ouais. Moi, je réfléchissais dans ma carrière, et David connaît un peu ce qu'on a été collègues. À Lille, on bosse beaucoup pour la grande distribution. Donc, le retail dit City Commerce, dit forcément, tu t'analyses le trafic pour améliorer ton chiffre d'affaires, etc. Et il y a des utilisations. Moi, j'avais utilisé Google Analytics sur mon site web, j'avais mis 2-3 trucs, je voyais les pages, les browsers, j'étais content, mais redécouvert à quel point c'est un produit ultra complet, et tu ne switches pas vers un concurrent en un mois, en fait, quand on a un usage assez complexe. Donc, je pense que ça va être assez compliqué. Je ne sais pas si vous avez entendu des directions des amis à vous qui ont peur ou qui se disent « Ah mince, comment ça va se passer ?» Je ne sais pas si vous avez des anecdotes là-dessus.
Moi, je peux en parler. Tu vois, en interne, on se posait évidemment la question parce que, comme beaucoup, on a récupéré cette petite clé GA que l'on a claqué sur un site web et qui fait que tout fonctionne correctement, hyper rapidement. Donc là, les sujets qui vont découler chez nous, c'est qu'est-ce qu'on fait. Donc, est-ce qu'il faut qu'on désactive de façon temporaire le Google Analytics avec tout ce que ça implique derrière en termes de suivi des chiffres, etc., des OKR, etc. Et puis surtout, c'est vers quoi on passe, quelles sont les solutions concurrentes vers lesquelles on peut, enfin que l'on pourrait utiliser, et qui s'avéreraient aussi simples que ce que tu fais avec un Google Analytics, parce que ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, c'est hyper simple à utiliser, et ça, je pense que tout le monde en a fait l'expérience, l'utiliser, l'installer en tout cas. Par contre, à l'utilisation, si tu veux vraiment bénéficier de toutes les différentes features qui sont mises en avant par Google Analytics, enfin franchement, en vrai, c'est un vrai métier, quoi. C'est pas juste un pépère qui met un code dans un site web. Donc voilà. Et franchement, nous, c'est des questions qui sont ouvertes et qui sont qui ont même été ouvertes ce matin pour tout vous dire. Et donc c'est une question à laquelle il faut qu'on apporte des réponses assez rapidement. Mais d'un point de vue stratégique, enlever un Google Analytics, ça a aussi des impacts. Donc faire attention.
Ils sont super lourds, c'est clair. Ouais. Mais du coup, donc notre collègue Guillaume dans son message évoque dans ce message-là Matomo, qui est un peu le... Donc historiquement, c'est un projet qui s'appelait Piwik, qui est un peu le concurrent open source le plus connu, je dirais. En tout cas, moi, c'est celui qui me vient en tête le plus. Et c'est celui qu'on utilise chez Clever sur le site, sur la console... Et puis ailleurs, je sais plus trop. Et donc, je sais qu'on a vu pas mal de gens commencer à s'intéresser à comment je vais pouvoir self-hoster un Matomo chez un hébergeur européen, parce que si c'est un peu le principe quand même. Donc forcément, nous chez Clever, on est contents si ça arrive chez nous, mais. Mais il n'y a pas que nous, forcément. Voilà, est-ce que vous avez des trucs à dire sur Matomo ? Moi, de mon usage, c'est pas aussi léché et complet, mais pour ce que j'en ai à faire, à savoir voir un peu c'est quoi les navigateurs qui sont utilisés, les versions d'OS et les trucs comme ça, moi, ça me suffit largement et ça s'installe assez facilement. Je crois, Arnaud, t'en as déjà installé, toi, non ?
Non, c'était Clément qui en avait installé, mais il nous avait fait un topo. Effectivement, c'est pas si complexe que ça. Enfin, ça reste une application PHP assez classique.
Avec une base de données.
Après, sur la partie utilisation, je sais pas, mais ils ont aussi en fait un plan payant qui te débloque pas mal de fonctionnalités. Et j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser en fait. Donc, ça se trouve, il y a beaucoup de fonctionnalités qui mimiquent ce que Google Analytics t'offre, mais je sais pas. Ils ont aussi une version cloud d'ailleurs.
C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, ils ont une version cloud, on vous mettra je vais mettre dans les show notes un lien vers le site de Matomo.
Et on sait où est-ce que c'est hosté
Alors, je crois que c'est sur leur propre infra, je crois.
Ouais.
Oui, je crois, ouais.
D'accord. Donc c'est a priori en France ou c'était pas en Allemagne?
C'est possible, non. Ouais. Je crois que c'est l'un des deux, ouais.
Ouais, je sais plus.
En tout cas, j'ai toujours rêvé de dire ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez. Non, bref. On passe un autre lien un peu d'actualité de Pierre. Pierre, tu vas nous parler de Log4Shell et des cascodeurs.
Oui, alors les cascodeurs, c'est un podcast plutôt orienté Java, assez connu. Et ils ont fait un épisode qui revient en fait sur le drame, sur la faille, le Log4Shell. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Je vais résumer rapidement. Log4Shell, c'était une faille qui est apparue sur Log4j. Donc c'est une librairie de log en côté Java. Et qui a foutu bien le bordel parce que en gros on pouvait faire de l'injection de code super facilement. Je crois que c'était une sévérité. Ouais, dans la gravité c'était 10 sur 10 sur l'échelle de faille parce que c'était super simple à exploiter. Et voilà, donc ils reviennent en fait sur toute l'histoire de ce truc-là, de la du moment où Alibaba du coup a report jusqu'à les 15 000 patchs qu'il y a eu et tout le drame avec oui alors du coup on fait un patch, du coup on retrouve un autre bug, enfin bon bref, donc voilà, mais ça a été assez impactant même pour nous.
Et ouais, chez Clever c'est passé comment?
Pas tant que ça. Enfin, en fait, on n'utilisait pas Log4j directement. En fait, on utilise une autre lib SL4j, un truc comme ça, je crois. qui est en fait à différents backends de logging et dont le sien qui est le défaut. Donc en fait dans la majorité de nos projets on n'utilisait pas ça, c'était surtout sur certains add-ons qu'on fournissait, par exemple Elasticsearch effectivement, qui utilisait Log4j, et il y avait 2-3 autres trucs, genre on héberge aussi des serveurs SMTP pour des clients donc qui étaient en Java, et donc il y avait ce genre de problème, mais dans nos projets core en fait on n'a pas eu de trop de soucis. Les add-ons Elastic ont été patchés quasiment quelques heures après qu'Elastic ait donné un moyen de contourner en fait le problème, donc on a été assez safe on va dire assez rapidement. Et puis après c'était c'était sur d'autres briques, c'était un peu la bataille genre sur des Jira, des Confluence, ce genre de choses qui utilisaient Log4j 1 point et quelques, qui est très vieux en fait, qui datait de 2015 ou 2016. Et donc là, on savait pas trop si c'était impacté ou pas. Et quelques semaines après, il y avait potentiellement des moyens, quand même. Enfin, bon, bref. Mais après, là, ça dépendait des éditeurs derrière, en fait. Nous, on pouvait pas faire grand-chose à notre niveau. Donc, on essayait d'être proactif, mais voilà. Quoi.
Ça s'est passé comment, David ? Parce que donc tu l'as dit, vous avez une stack Java, vous hébergez des trucs pour vos clients. Enfin, c'était la merde.
C'était la merde, yes. Bonne suite de communication vers les clients au fur et à mesure que tu patchais tes versions de Log4j, parce que du coup, il n'y a pas qu'une seule version de Log4j, c'est qu'il y en a eu 3-4 d'affilée, et donc effectivement, ça nous a amené à faire tous les 2-3 jours une nouvelle version du produit avec le patch qui va bien.
Le patch
du jour. Après, on n'a pas été tant impacté que ça, parce que un peu comme vous, je pense, on repose aussi sur cette librairie SLF4j, et donc on n'utilise pas Log4j directement. Malgré tout, côté Logback, qui est donc l'implémentation par défaut de SLF4j, il y avait quand même certaines vulnérabilités qui ont été remontées bizarrement au même moment pour les mêmes raisons, surtout le support GNDI, etc. Donc ce n'est pas parce qu'on utilise Logback qu'on est forcément protégé de ces sévérités ou de ces vulnérabilités. Après, côté Gravity, on utilise aussi des outils comme Sneak ou Snike, je sais pas en fonction de comment vous aimez le prononcer, mais qui nous permettent justement de découvrir ces vulnérabilités dans le code source. Et en fait, il s'est avéré qu'on était effectivement vulnérable à la faille de Log4j juste parce que, merci Maven, mais avec toutes ces dépendances transitives et je tire l'internet quand je télécharge une dépendance, finalement il s'avérait qu'on avait tiré sans le vouloir une dépendance sur un Log4j d'une version inférieure à celle qui avait été fixée quoi. Mais au-delà de ça, et c'était sur un produit en particulier, mais au-delà de ça non, avec SLF4j on était quand même plutôt prémunis de la problématique quoi.
Tu veux dire qu'il n'y a pas que avec Node et Node.js et les Node modules que quand tu prends une dépendance, il y a la terre entière qui arrive avec.
C'est bizarre, je te voyais venir avec ta question. A priori, à ce qui paraît.
On va vous mettre un petit lien vers Sneak, qui est vraiment un super outil, un SaaS qui scanne vos dépendances et vous dit là, il y a une CVE, c'est la merde, faire quelque chose. Et pour la petite info, Sneak, c'est assez marrant, ça veut dire « So now you know ». Et ce que je trouve assez marrant, c'est qu'une fois que quelqu'un de Sneak m'a expliqué, il m'a dit « So now you know » à propos du fait que maintenant je sais comment...
Oui.
Enfin bref, vous avez suivi. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà. Du coup, on vous incite vivement à écouter le podcast des Cascodeurs avec Arnaud et Emmanuel qui reviennent tout en détail sur cet incident et ses nombreux rebondissements. Sortez le popcorn, c'est vraiment... En tout cas, aujourd'hui, on peut dire ça parce que normalement, il n'y a plus trop de... Mais le jour même, la plupart des équipes, on était plutôt hashtag HugOps que Popcorn. Quoi. Ouais, voilà.
Ah bah, tu vois pop ça le matin quand tu te réveilles, tu fais... merde.
C'est arrivé, c'est un vendredi.
C'est un vendredi.
C'est un vendredi,
j'étais d'Astrand, donc je me suis dit, le week-end, il va être cool. Là. Ça va être marrant.
Moi, j'étais en train de bosser sur le pipeline du traitement des access logs et j'étais content, tu vois.
Tu m'étonnes. Ok, en parlant un peu de sécu, on enchaîne avec un lien de David, un lien autour de spec RFC de l'IETF et de l'autorisation, tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, David ?
Ouais, donc en fait, et j'ai appelé ça un peu le chien qui se mord la queue, parce qu'en fait, depuis déjà quelques temps, hein, c'est pas aussi récent que ça, mais on commence à avoir des conférences autour de ce que l'on appelle le OAuth 2.1. Ça permet aussi de rebondir sur le fait qu'on parlait de Keycloak et de Gravity AM tout à l'heure, mais on commence à avoir quelques conférences sur le concept OAuth 2.1, et là, on commence à écarquiller un peu grand les yeux en se disant, mais... Bah, qu'est-ce que c'est encore que cette nouvelle version de OAuth 2.1, qu'est-ce que ça va amener? Parce que généralement, quand tu fais une nouvelle version, c'est que ça va amener des choses. En l'occurrence, non. en fait, ils se sont surtout dit que y a une RFC de base, donc c'est la 6849 ou 6859, qui est un peu le corps de l'aspect OAuth 2.0. Et il y a plein de petites specs alternatives enfants qui ont été créées au fur et à mesure des années, des mois, du temps, en fonction des besoins. C'est, je fais de la sécu à partir de mon browser, de mon API native, etc., etc. Enfin bref, finalement, il y a eu une douzaine, une quinzaine de nouvelles sous-RFC qui ont été créées. Et en fait, les mecs se sont juste dit, nous, on va créer une nouvelle version de OAuth 2.1, mais qui va rien amener de nouveau, mais qui va juste être un merge des différentes RFC au sein de la même RFC, quoi. Voilà. Donc, en gros, il n'y a rien de nouveau. Je pense que ça va juste foutre un peu le bordel dans la compréhension des gens, parce qu'il faut se dire les choses, c'est que OAuth, c'est pas si simple que ça à mettre en place. Donc là, quand tu vas dire, est-ce que tu fais du OAuth 2.0 ou du OAuth 2.1, à mon avis, les gens, ils vont commencer à se poser des questions. Et donc, voilà, moi, j'ai appelé ça un peu le chien qui se mord la queue, parce que finalement, je me dis, quand on arrive à un point où tu crées des RFC qui sont finalement exactement les mêmes choses qui existaient déjà, mais qui sont juste un merge de RFC existantes, bon, ça crée un peu de bordel. Malgré tout, il y a quand même des avantages, parce que finalement, il y a toutes des RFC qui étaient quand même dépréciées sur différents types de flows. Côté OAuth, on parle beaucoup de l'implicit grant, on parle de ressources owner, password credentials, donc c'est flows qu'il ne faut plus a priori utilisé pour des raisons de sécurité. On va plutôt vous pousser sur des bonnes pratiques, là où il faut utiliser de l'autorisation code, du PKCE, etc., etc. Donc ça, pour le coup, je trouve que ça a ses avantages, finalement, de finalement écarter complètement ces choses dépréciées au sein de cette nouvelle spécification. Mais là où je trouve que c'est encore moins parlant pour les gens, c'est qu'en fait, il y a d'autres initiatives qui émergent où les gens se sont dit, OAuth, effectivement, c'est cool, mais en même temps, c'est quand même hyper complexe, un, mettre en place, et deux, de compréhension par rapport à toute cette palanquée de endpoints différents qu'il faudrait que tu puisses appeler en fonction de tes use cases. Et en fait, il y a une initiative qui s'appelle GNAP, qui est un peu le Grant Negotiation and Authorization Protocol, a été créé il y a de ça un an, peut-être un an et demi maintenant. Et en fait, les mecs, en fait, ils se sont dit, nous, on va réinventer un peu le OAuth, on va prendre tout ce qui n'allait pas dans le OAuth et on va créer finalement la même chose. Donc finalement, on va répondre aux mêmes problématiques, aux mêmes use cases, mais on va plutôt simplifier la compréhension du protocole et du framework par les développeurs. Donc c'est aussi très centré sur finalement la developer experience ou la developer ergonomics. Donc en gros, quand tu vas initier un flow d'authentification avec NAP, plutôt que dire j'appelle tel endpoint plus tel autre parce que je veux générer un token plus tel autre parce que je veux faire un revoke, etc., etc., là ils se sont dit non, on va simplifier les choses, on va exposer un unique endpoint, et tu vas finalement envoyer une requête à cet unique endpoint pour dire finalement ce que tu veux faire, quoi. Donc dans la démarche, je trouve ça intéressant. Et puis aussi, il y a le fait que, et je pense qu'on a tous fait face à cette problématique entre guillemets problématique, mais quand on fait de l'OAuth, on est souvent confronté à en fait, il faut que j'envoie tout en forme URL encoded, comme si ça venait de mon browser. Le truc bien, bien dégueulasse, en fait, ça te prend une demi-heure à t'en rendre compte que tu n'as pas fait correctement les choses et qu'il faut que tu rajoutes le header qui va bien dans ton curl. Et donc là, finalement, ils se sont dit, mais ça, on le dégage complètement. Donc, unique endpoint et puis une représentation de ce que tu veux faire, finalement, ta request au format JSON. Bon, effectivement, c'est un peu verbeux, c'est un peu pompeux, c'est un peu complexe, mais dans l'approche et dans la développeur expérience, je trouvais ça quand même assez cool. Donc voilà. Donc, est-ce que ça valait le coup de faire une nouvelle spec OAuth 2.1 qui finalement n'apporte rien de nouveau versus les nouvelles initiatives qui émergent? voilà, je pensais que c'était de mon côté important d'en parler. Après, je ne sais pas ce que vous pensez, justement, vous qui êtes des Pierre, un aficionados de Keycloak.
J'ai pas dit ça. Je n'ai pas du tout dit ça. Non, je découvre en ce moment. Alors,
du coup, je rigole.
Je découvre les joies, justement, tu vois. Tu sais, c'est quand tu mets le doigt dans tes choses et tu t'es fait bouffer le bras. Bah, ça me ferait ça.
Désolé.
Mais franchement, je trouve qu'il y a des principes dans GNAP qui sont hyper intéressants au-delà de la développeur expérience. Typiquement, tu vois, quand tu génères un token, parce qu'on a tous été confrontés un jour à il faut générer un giver token quelque part avec un truc imbitable à l'intérieur.
Et en fait,
en fonction des besoins, il faut que tu fasses plusieurs demandes, tu récupères plusieurs tokens, etc., etc. Et en fait, avec GNAP, ils se sont dit, bah non, encore une fois, c'est unique endpoint, tu peux faire plusieurs requests dans ton format JSON qui va te permettre de récupérer plusieurs tokens en fonction de tes besoins, de tes use cases, avec des privilèges différents, etc., etc. Enfin, je trouve que clairement, il y a des choses sympas dans ce nouveau protocole ou spécification, je dirais, qui émerge, quoi.
Et les gens derrière GNAP, je sais pas comment on dit, c'est un peu des gens qui ont déjà participé au SpecOAuth ou c'est un peu genre...
Ouais.
Des gens complètement à part qui font non, ça c'est pas bien, nous on refait un truc, tu sais.
Non, les deux principales personnes qui travaillent sur la spécification, elles sont clairement issues de tout ce qui est OAuth, OIDC, parce que c'est vrai qu'on focus sur OAuth, mais il n'y a pas que l'OAuth, hein, il y a aussi toute la partie identity avec OIDC. Et en fait, tout ça, finalement, ils l'ont regroupé aussi au sein de GNAP. Donc GNAP, il est là comme, c'est pas une extension OAuth, c'est vraiment un nouveau protocole qui se base sur ce qui se passait bien sur OAuth, mais qui va englober aussi toute la partie identity qui était portée au préalable par OIDC. Mais ouais, pour répondre à ta question, Hubert, ce sont des personnes issues de ces vieilles spécifications, parce que malgré tout, ce qui est OAuth, on en parle tous les jours, mais en vrai, ça date. Et voilà.
Cool. Ça fait un peu XKCD 927, à savoir le XKCD de il y a 14 standards qui sont en compétition. Je vais créer un nouveau standard pour les unifier tous.
Les unifier tous.
Bon, bah maintenant il y a 15 standards. Ouais. et en même temps, voilà, ça reste les mêmes personnes. Donc, enfin bon, on va suivre un peu tout ça. On verra ce que ça donne.
Moi, je retiens qu'Hubert connaît les ID des XKCD. Ouais. Voilà.
Mon moteur de recherche que je viens de faire pendant que David parlait connaît le numéro du CSD. Ouais. On enchaîne avec un lien de Arnaud sur Chrome et Firefox qui vont tous les deux passer en version 100. Et bah forcément, ça va pas bien se passer. C'est un peu le bug de l'an 2000, Arnaud.
Je m'attendais pas spécialement à ça d'un côté, mais effectivement, les équipes de ces deux moteurs s'attendent à ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand les navigateurs déjà, donc Chrome et Firefox, avaient déjà été, quand ils sont passés en version 10, en fait, donc à 2 digits dans leur version majeure, ça avait déjà cassé en fait des sites qui en fait parsaient le user agent et qui maintenant n'arrivaient plus en fait à le parser parce qu'il y avait 2 digits au lieu de 1, tu comprends. Et donc du coup la même chose en fait va se reproduire avec la version 100 d'ici quelques semaines, je crois, pour Firefox et un peu plus pour Chrome, ou l'inverse, je sais plus. Et donc les équipes commencent déjà en fait à se poser la question et à voir comment est-ce qu'ils peuvent donc avoir des solutions de repli au cas où ça casse vraiment beaucoup trop de sites. C'est-à-dire que les deux ont implémenté en fait un mécanisme qui fera que la version sera bloquée à 99 si jamais les développeurs le décident sans faire de mise à jour. Juste un bouton à cliquer. Firefox avait déjà ce genre de mécanisme, Chrome j'imagine aussi, mais en fait ils ont déjà en fait des mécanismes pour désactiver certaines fonctionnalités ou autres, donc voilà.
On sent le packaging du Firefox Enterprise avec les options corporate et tout.
Ouais, genre, j'ai hâte d'aller dans le hubot config de Firefox pour fixer ma version moi-même, quoi.
Ouais, voilà.
C'est ça, mais en fait, d'un autre côté, c'est un peu logique en fait d'avoir une feature que tu veux désactiver globalement, ou en fait que t'as pas besoin de push une nouvelle mise à jour parce que ça peut prendre plusieurs heures et que tout le monde la télécharge et autres, ça fait beaucoup de trafic sur tes serveurs de mise à jour, etc. Dans leur version nightly respective, ils ont déjà en fait un flag qui est, je crois, activé par défaut en tout cas pour Firefox. Chrome, je sais plus, il me semble que c'est indiqué, qui en fait te met déjà ta version à 100 dans ton user agent, et donc ça permet en fait de tester certains sites de voir comment ça se passe un peu. Et en fait, tu peux revert très facilement en cliquant sur le bouton dans ton About config, j'imagine. Mais voilà, en fait, tu peux déjà commencer en tant que même développeur à tester un User Agent pour voir si tes sites sont prêts, on va dire, ou pas. Quoi. Ouais.
Cool.
Et si ton bac est vulnérable.
Et du coup, on le redira jamais assez, mais tant que vous pouvez éviter de vous baser sur l'user agent pour changer des comportements, que ce soit faire du responsive ou évitez. Et si vous avez, oui, parce qu'en fait, ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils disent bon, bah ton user agent c'est Chrome, alors je t'empêche d'utiliser, je sais pas, Zoom Web, parce que si c'est Firefox plutôt, ce qu'on a, c'est souvent une détection qui est faite.
Ah oui.
Il y a beaucoup de choses qui vont être détectées comme ça. Et la bonne pratique, c'est de ne pas faire ça, de faire de la feature detection et d'avoir des petits bouts de JS qui disent est-ce que le navigateur actuel supporte telle fonctionnalité, oui je l'utilise, non je l'utilise pas. Et en fait, quel que soit le navigateur derrière, tu t'occupes pas de ça. Et en fait, souvent ce qu'on dit, c'est que si vous commencez à partir dans le monde du je détecte le user agent,
c'est fini,
laissez faire des professionnels en fait, parce que il y a des services qui vous aident à faire ça. Les géants du web, pour ceux qui n'ont pas de version responsive de leur site, font de la détection côté back-end, sauf que ils le font bien entre guillemets quoi. Mais si vous avez un site qui traîne dans votre DSI et que vous le maintenez à peine, si vous l'avez fait vous-même, clairement vous n'allez pas le mettre à jour du jour au lendemain.
En fait, moi ce que j'ai appris dans cet article, c'est que il me semble qu'ils le disent, c'est que le user agent, enfin le header user agent, donc sa valeur n'est pas standard en fait. Chacun fait ça à sa sauce.
Et puis,
je pensais qu'il y avait un minimum de standards, mais après, peut-être qu'ils se mettent plus ou moins d'accord pour pas trop la changer. Mais ouais, effectivement, c'est un.
Non, parce qu'en fait, au fur et à mesure des nouveaux navigateurs qui sont arrivés, chacun a, pour des raisons de cross-compatibilité, à utiliser des mots qui sont en fait, qui font partie du nom d'un autre navigateur. Donc, quand tu regardes celui de Chrome, il y a WebKit dedans. Quand tu regardes celui. Enfin, ça devient n'importe quoi, en fait. Limite, t'as les noms de tous les navigateurs dans tous les user agents. C'est. Ouais. Et j'ai revérifié en même temps, parce que non, je les connais pas par cœur. La version 97 de Firefox est sortie début février. Et la version 98 de Chrome début février aussi. Et comme ils sortent une version toutes les 4 semaines à peu près, là, dans 2 mois, on est dedans. Quoi.
Dans 2 mois, ça
va. Il y a les dates exactes
sur le blog post.
Dans le blog post, ouais, je les regarde vite fait. 29 mars pour Chrome. Alors, je sais pas si c'est. Et 3 mai pour Firefox. Ouais, je sais pas si c'est les versions stables ou les nightly, mais je
sais pas si ça va être les stables. Ça.
Après, c'est pas si simple finalement de détecter ça, parce que si tu t'appuies sur des frameworks ou des librairies qui elles-mêmes font du parsing, je veux dire, en vrai, ça peut rapidement tout péter quoi.
Ton node module pas update.
Ouais.
Mais ouais.
En l'occurrence.
Il y a un node module user agent parser, mais j'ai déjà utilisé, qui. Fait de la magie noire et il arrive à savoir si c'est Chrome, Firefox, Android, iOS. Depuis récemment, il est incapable de faire la différence entre un iPad et un Safari desktop. Et voilà.
Safari desktop, genre, il voit pas la diff.
Non, parce qu'ils ont changé des systèmes dans la manière dont ils font le user agent. Donc, c'est vraiment une. C'est un vrai métier, les user agents.
D'ailleurs, le user agent ne devait pas disparaître à un moment. Il n'y avait pas un truc comme ça.
Il y a des travaux chez Chrome notamment pour le freeze et
le freeze partir sur des.
C'est pour ça que je suis étonné qu'il y ait eu cette nouvelle, mais j'ai pas assez creusé. Mais il y a une époque où on évoquait qu'il bouge plus et qu'on serve d'autres headers pour transférer de l'information sur le.
Le moteur, le machin, le truc, que ce soit des headers dédiés, c'est ça?
Ouais, mais je sais pas trop où ça en est. Je vais mettre une to-do et on rajoutera des liens dans les show notes s'il faut.
Alors, pour la blague de Chrome qui va à 7 à 99, en fait, ils ont deux plans. Ils ont le plan A qui est de 7, la version mineure, au vrai chiffre, tu vois, à 100 et quelques. Sauf que du coup, ils se disent, mais sauf que comme la version mineure, elle a toujours été genre à 0 ou un truc comme ça, ça se trouve, le même problème va se passer. Et donc, du coup, si jamais ce plan-là échoue, le plan B sera de laisser la version majeure à 99. Ouais,
c'est dingue.
C'est vraiment très bon.
Il faut désactiver les mises à jour automatiques, quoi.
Ouais, quelle bonne idée, avec tout ce qu'on a évoqué avant.
Ça me rappelle le problème que tout le monde, beaucoup de monde a eu, et je pense que Twitter s'était enflammé, mais il y a ça quelques semaines, il y avait tous les navigateurs Firefox qui ont été mis à jour, et tous les sites qui faisaient de l'HTTP 3, ça faisait friser le navigateur, quoi. Finalement, je me dis, on en revient au même style de problème potentiellement. C'est fou.
C'est vrai qu'on n'a pas mis ce lien, effectivement.
On
n'avait
pas mis ce lien, on va le rajouter, ouais. Non, c'était marrant. C'est le moment où tu essayes d'ouvrir un navigateur Firefox, et t'es là, et ça marche pas. Et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment chelou comme truc.
Cool.
Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont mettre du temps à arriver avant d'arriver sur des versions en 4 digits, quoi. Ça leur
laisse un peu de temps pour
faire le truc. Bah, sauf s'ils continuent de baisser le cycle de release, quoi, parce que...
Ouais. Là, on est à une version par mois, version 100, 900 mois, ça fait combien d'années?
Il y a un peu de rab, ouais.
Ouais. Ouais. Bah, on disait ça pour le SHA-1, on disait ça pour les IPv4.
On disait ça pour le 32 bits et les timestamps. Ouais. On reparle pour 12-13 ans. On n'a même pas 11 ans.
Ouais. Cool. Du coup, on enchaîne avec un lien navigateur pour continuer. En fait, c'est un lien de CSSTrix, un site que j'apprécie particulièrement, qui nous parle d'un nouveau polyfill pour les container queries. Alors, qu'est-ce qu'un polyfill et qu'est-ce qu'une container query? Les container queries, c'est un peu le marronnier dans le CSS. En gros, depuis 2011 et le fameux article sur le responsive design de Ethan Marcotte, les gens se sont mis à faire du responsive design, mais entre autres avec des media queries. Donc la media query, c'est tu dis, si le navigateur il fait moins de tant de pixels, je fais tel CSS, et s'il fait plus de tant de pixels, je fais tel CSS. Je simplifie énormément. Mais c'est très bien pour moi. Et en fait, dans un monde où tu commences à faire de plus en plus de composants, de design system, où en fait ton composant, tu ne sais pas par qui va être utilisé, dans quelle largeur, dans quelle configuration, bah en fait, ce que tu aimerais, c'est plutôt des media queries, mais sur la, pas que, mais sur la taille d'un composant et pas la taille du navigateur. Typiquement, si tu t'imagines un rectangle.
Du conteneur plutôt, tu veux dire, du coup.
Ouais, j'ai dit quoi? Du composant, du conteneur, ouais.
Du truc qui contient ton composant, en fait.
C'est ça, voilà. Okay. Typiquement, si tu as un rectangle dans lequel tu mets une affiche de film, un titre et un résumé, si tu l'affiches en pas large, tu veux peut-être afficher le résumé en dessous, alors que si tu l'affiches en très large, tu veux peut-être afficher le résumé à côté de l'affiche. Et ça, tu veux pas que cette décision soit faite sur la largeur du navigateur, mais plus sur la largeur de ton composant du container. Et donc, les container queries, c'est ça. C'est un truc, tout le monde dit, on aimerait avoir ça depuis des années, sauf que c'est pas simple à mettre en place. Et en fait, on a eu plusieurs idées qui ont été proposées. Et là, depuis quelques mois, il y a une proposition de Myriam Suzanne qui est vraiment, vraiment bien, qui est en fait arrivée dans les brouillons et qui est en train d'être travaillée de manière active au niveau des specs CSS. Vous pouvez l'utiliser dans un Chrome avec un flag, donc chrome://flags, vous cherchez container queries, et on vous met un lien, il y a pas mal d'articles qui vous expliquent comment ça marche. Il y a déjà des noms de propriétés CSS qui ont changé de nom depuis la proposition de Myriam, et en vrai c'est cool et ça marche super bien, et dans plein de design systems ça va être de plus en plus utilisé. Nous, chez Clever, on a besoin de JavaScript pour faire ça actuellement, et c'est vrai que si on pouvait le faire uniquement en CSS, ce serait top. Et donc cet article de CSSTrix explique qu'il y a un polyfill qui existe. Donc un polyfill, l'idée c'est un bout de JavaScript qui va émuler une fonctionnalité qui n'est pas encore dans un navigateur. Et en général, quand vous essayez d'émuler une fonctionnalité CSS, c'est un peu plus sale. N'allez pas voir les sources. Et ce polyfill, il est pas mal. Il a quelques limitations. Notamment, ça ne fonctionne pas dans du Shadow DOM. Donc nous, on est un peu deg puisqu'on fait des web components et qu'on ne va pas pouvoir s'en servir tel quel. L'idée, c'est qu'ils veulent gérer la plupart des cas, peut-être pas forcément les corner cases, enfin les cas particuliers, pour que les gens commencent à utiliser, à se rendre compte si ça leur convient, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un Chrome. Moi, je l'ai enfin fait hier pour le podcast, j'avais toujours pas essayé. Prendre un Chrome, vous activez le flag et vous essayez de jouer avec les tutos. Et puis, dans les autres navigateurs, essayez avec le fameux polyfill qu'on vous a linké. Ça, c'est en travaux assez sérieux côté Firefox. Enfin, assez sérieux. En tout cas, ils ont commencé à mettre les mains dedans côté Firefox et Safari. Et en général, pour les features CSS, ça va souvent un peu plus vite, quoique ça va dépendre. Bref, en tout cas, essayez, c'est plutôt cool. Est-ce que vous avez compris, mes amis javaïstes, back-end, pas que Arnaud, tu fais du front aussi.
Moi, j'ai compris l'explication, je suis content de moi. C'est grâce à ton explication super claire.
Ok, du coup, je vais te passer la main, Pierre, pour parler d'un incident qui concerne PostgreSQL. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Ouais, c'est un blog post sur une personne qui connaît très bien PG qui raconte, il a reçu un petit message un soir, dis-moi, est-ce que tu peux te connecter ? On a un petit problème et puis il est...
Est-ce que t'es dispo pour nous aider ? Si possible, on n'en trouve pas.
C'est ça. Et tu sais, le message du vendredi soir à 18h, où est-ce que tu dis « j'ai pas vu » où tu viens filer un coup de main. Et du coup, cette personne-là, du coup, rejoint en fait une conf de crise et raconte en fait comment il a aidé à la résolution d'un problème. Donc le problème, c'était il y avait le PG, donc le PostgreSQL qui s'enflammait en CPU, donc il brûlait du CPU à gogo, et du coup il raconte en fait tout le cheminement qu'il a fait pour venir débugger ça. Donc c'est à base de, vraiment, comme c'est du CPU, donc c'est l'analyse des query plans, de le flame graph associé, quel index, comment c'est représenté et tout ça. Et donc le blog post est assez long, mais il explique vraiment le cheminement de la personne sur la soirée, et c'est plutôt intéressant.
Un peu en mode forensic.
Ça a été, l'incident s'est déclaré après une mise à jour d'une version majeure de PG, en fait. Ce qu'ils avaient, en fait, ils avaient du coup l'avantage d'avoir des anciennes ils avaient des applications et des PG qui tournaient un peu partout. Donc les mêmes applications et les mêmes PG, sauf que dans des versions différentes, le temps qu'ils mettent à jour un peu tout. Donc ils avaient, on va dire, la chance d'avoir une version encore sur les anciennes versions de PostgreSQL, et là le problème s'appliquait que sur une montée en version, en fait, de passage de la version 10 à la version 11. Donc ils ont eu un peu de chance à ce niveau-là pour pouvoir débugger et voir plus ou moins qu'est-ce qui était réellement différent ou pas, quoi. Donc c'était vraiment intéressant. C'est un peu complexe à comprendre sur certains points, parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien PostgreSQL, oui. A priori.
Ça se voit qu'il connaît, tu vois, dans le flame graph, il dit, regardez, ça correspond à ça, dans les index, dans le machin, et t'es là, toi, t'ouvres des onglets pour essayer de comprendre.
Mais après, d'un autre côté, ça a pris plusieurs heures aussi à résoudre, enfin, à diagnostiquer, hein, parce que, mine de rien... Ça devait pas, enfin, c'est pas quelqu'un, enfin, il a pas trouvé en une demi-heure, quoi. Pas combien de temps, mais c'était assez complexe et très très intéressant pour débugger, un problème de perf sur une DB.
Débugger un problème CPU. Ouais. C'est quand tu. Ouais.
CPU, parce qu'en même temps, globalement, spoiler alert, le PG utilisait un index de 200 gigas pour filtrer quelques lignes seulement, je crois, un truc comme ça. Alors qu'en fait, il ne devait pas l'utiliser à ce moment-là. Donc, un petit bug dans la planification, donc dans le planner PG. Et ouais, en fait, c'est pour ça que ça prenait beaucoup plus de temps, ça surchargeait le CPU, alors que dans l'ancienne version, en fait, l'index n'était pas pris en compte, quoi. Parce qu'il n'y en avait pas besoin. Donc, ouais, voilà. Effectivement, scanner 200 gigas de RAM à chaque fois, on fait de temps en temps, nous, avec les Warten, et ça ne se passe pas toujours très bien.
Tout de suite.
Donc on comprend.
Et du coup, est-ce qu'un index de 200 gigas, c'est du big data?
Ça tient en RAM. Ça tient en RAM sur une machine.
Okay. Pierre, je te propose d'enchaîner avec un autre lien autour du monde des bases de données qui nous parle de Snowflake, c'est ça?
Ouais,
Oui, alors c'est un blog post de Snowflake. Donc Snowflake, c'est un data warehouse. Donc en gros, on pousse de la donnée, vous poussez la donnée chez Snowflake et ils vous permettent de faire des selects vraiment d'analytique pure dessus. Et c'est l'histoire d'une migration chez Snowflake qu'ils ont dû faire sans downtime. Donc en gros, ils ont dû migrer toute la partie métadonnées chez Snowflake. En fait, quand on pousse de la donnée chez Snowflake, elle est stockée sur un S3 et ils ont leur base de données qui va stocker toutes les métadatas. Donc, quel fichier S3 possède telle donnée, etc. Donc, c'est vraiment le cœur de Snowflake, c'est le store des métadonnées qu'ils ont dû migrer. Et donc, ils racontent en fait comment ils ont fait ça. Donc, en fait, pour la petite histoire, ils sont passés d'une base de données. En fait, ils avaient forqué une base de données qui est passée en closed source. Une histoire un peu compliquée de base de données utilisée, qu'ils ont forqué, qu'ils ont dû maintenir pendant quelques années. Et après, la base de données est réapparue dans le monde open source. Et du coup, ils devaient migrer vers cette base de données-là. Et voilà. Donc, le process est super intéressant parce que là, tu as des contraintes de ouf. Et notamment, ce qu'ils ont fait, c'est que cette base de données-là, elle s'appelle FoundationDB. Et en fait, elle a ce qu'on appelle un simulateur. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, tout est testé. Il y a vraiment un aspect très fort sur le code, sur la testabilité et la correctness, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Et du coup, en fait, ils ont plein d'injections de fautes et ils ont testé des milliers de simulations de ce truc-là pour être sûr en fait, que quand ils vont migrer, ils ne vont pas perdre de la donnée et que tous les cas un peu foireux sont testés. Donc, qu'est-ce qui se passe si le cluster A shut ou il y a un rôle qui shut. En fait, ça, c'est des choses qui sont injectées dans la simulation. Et donc, ils ont pu tester et gagner de la confiance dans le process de migration. Voilà.
Correctness, exactitude.
Exactitude, voilà.
Ah, c'est beau.
Merci.
J'ai toujours été impressionné. Vas-y. J'ai toujours été impressionné en tout cas de ce que Pierre en parle du système de test de FoundationDB. J'ai pas l'impression qu'on retrouve vraiment ça ailleurs dans d'autres DB ou systèmes.
C'est incroyable. En fait, c'est le système où au lieu d'écrire des tests où tu vas essayer de checker que ton code en fait ce qu'il demande. En fait, tu écris ton code de telle manière à ce que tu puisses générer plein de tests. Donc, par exemple, on fait du code asynchrone. Donc, tu fais un call HTTP. Et ben, en fait, ce test-là, il va être drivé par une seed, donc une chaîne de caractères. Et en fait, dans les calls asynchrones, dans le scheduling de tes tâches, partout, tu peux injecter un if, enfin tu peux mettre un truc qui va faire que ça va mal se passer, tu vois. Donc par exemple, tu peux shutter la connexion TCP, tu peux réorder les paquets TCP dans le truc et ils font des tests de fou. Et tout ça, c'est drivé par une seed. Du coup, toi, tu peux l'injecter dans tes tests. Et donc, si tu trouves une seed qui est pas bonne, bah, en fait, tu la rejoues sur ton laptop et c'est instantané.
Ah, un peu comme du fuzzing, quoi.
Exactement, c'est du fuzzing plus. Et du coup, en fait, eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils lancent des milliers de tests en parallèle pour essayer de trouver une seed qui est pas bonne. Et donc, ils brute force un peu le modèle. Mais ton espace de problème, il est infini parce qu'en fait, tu as une infinité de seeds possibles.
Ouais.
Et du coup, tu testes énormément de choses. Par contre, tu crames du CPU. C'est un peu ça le. Mais ouais, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait.
Bah, ça reste un meilleur usage que pas mal de choses qu'on fait sur des CPU.
Sa vie n'engage que moi.
Allez, index PG.
Juste, non, je pensais plus à autre chose, mais...
Juste, David, du coup, vous, à Gravity, vous utilisez... Est-ce qu'on a parlé de PG, on a parlé d'un peu de Snowflake, de Foundation, vous utilisez quoi comme DB, si tu peux en parler un peu, vous avez...
Ouais, je peux en parler. En fait, chez Gravity, on n'a pas de DB de prédilection, juste parce que en fait, on a un système de plugin chez Gravity qui nous permet de nous d'utiliser. Je vais pas dire n'importe quel type de DB. Évidemment, c'est à nous de développer les différents connecteurs avec les DB qu'on supporte. Mais de façon générale, les clients ils sont plutôt sur du MongoDB ou MongoDB-like. Ou du PostgreSQL, quoi. Franchement, à 80, je veux dire, entre 90 et 95%, ça va recouper avec ces deux DB, quoi. Mais sinon, après, on supporte d'autres, hein. C'est du Java, donc le Java, c'est fantastique. On a le JDBC, donc du coup, on peut logiquement et en théorie supporter beaucoup de types de bases de données. Mais en pratique, c'est moins vrai parce que forcément, chaque DB a ses spécificités, ses instructions, ses statements particuliers. Donc, non, on ne supporte qu'un subset des différentes bases de données. Donc, principalement Mongo, Postgres, pas mal du coup de documents de DB et voilà.
Ok. Ouais, vous n'avez pas envie de refaire un ORM, quoi.
Du coup, on termine avec un lien avant les petits outils de Arnaud. Arnaud, tu peux nous parler de LDD, c'est quoi et qu'est-ce qui s'est passé dans cet article ?
Alors, c'est un article que j'ai trouvé assez marrant qui est sorti il y a quelques mois, je crois, mais que j'ai vu passer récemment. LDD, donc c'est un, peut-être que vous connaissez déjà, si vous travaillez sous Linux ou autre, vous avez déjà eu à l'utiliser. C'est un outil qui vous permet globalement d'afficher, d'afficher en fait les dépendances, donc les librairies dont votre programme va avoir besoin.
Sur un binaire.
Ouais, sur un binaire ou même en fait sur une librairie, tu peux voir ses dépendances, etc. Donc globalement, tu exécutes LDD et le nom de ton binaire ou de ta librairie et ça va te sortir la liste des dépendances dont il a besoin. Donc c'est assez pratique dès que vous téléchargez en fait un binaire sur internet, bon, évitez de le faire évidemment, mais parfois ça arrive, ou même en fait quand vous êtes sur une distribution X et que il n'y a pas le paquet sur votre distribution, vous téléchargez le paquet depuis une distribution Y et vous regardez ce qui manque ou pas, quoi. Ce qui arrive assez souvent sur Xarbo. Et du coup en fait cet outil, moi je pensais qu'il affichait en fait, enfin en fait qu'il, globalement qu'il lisait juste le header des fichiers en fait, donc le header ELF, qui est en fait le format de header des binaires des librairies sous Linux, globalement qui en fait vous dit quelles sont les dépendances, où est-ce qu'est mon point d'entrée, etc. quoi. Il y a quelques métadonnées de données. Et en fait, a priori, cet outil ne fait pas ça du tout. LDD, en fait, c'est un script bash qui...
Quoi ?
C'est un script bash qui, en fait, s'occupe juste... Alors, juste entre guillemets, évidemment, mais qui s'occupe... Voilà, le fameux juste, hein. Qui s'occupe de mettre, en fait, de créer une variable d'environnement, enfin, de définir une variable d'environnement, tout simplement. Et en fait, quand votre... et en fait, derrière, il va lancer votre binaire. Donc, déjà, en fait, il va relancer le binaire. Bon, c'est... OK, c'est bizarre. Et donc, en fait, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est le dynamic linker slash loader de Linux, du coup, qui rentre en jeu, qui, lui, en fait, va s'occuper de réellement lancer le binaire qui est demandé. Sauf que quand cet outil, en fait, voit que la variable d'environnement est définie, donc je ne sais plus c'est quoi son nom, mais globalement, c'est show dependencies ou un truc comme ça. Mmh. Mais en fait, le linker, il ne va pas lancer le binaire, il va juste afficher les dépendances du binaire. Donc en fait, c'est le linker, le loader, qui lui-même en fait, va juste afficher ces infos-là. Donc, OK. Donc, en fait, globalement, c'est un if. If la variable d'environnement existe, then, tu affiches les dépendances. Sinon, voilà, sinon, tu exécutes, quoi. Mais alors, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe si jamais tu compiles ton propre linker slash loader, c'est-à-dire tu peux prendre... Alors on rentre un peu dans les détails, mais tu peux prendre un petit projet qui implémente un loader assez simple et en fait tu lui enlèves ce if. Bah du coup, si tu lui enlèves le if, dans tous les cas en fait le linker il va exécuter ton programme. Donc si jamais tu compiles un programme, ce que dit l'article en fait, tu compiles un programme, et tu lui dis en fait à ce programme d'utiliser ton linker custom, donc en fait ton loader custom à toi, et que tu lances LDD dessus, qu'est-ce qui va se passer? Donc LDD va set la variable d'environnement, ton loader va se lancer et va pas chercher en fait à voir la variable d'environnement parce que tu as enlevé ce code là, et il va lancer ton programme. Donc, et si imaginons que tu packages tout ça et tu le donnes à quelqu'un d'autre, tu vois, et tu lui dis bah je sais pas, j'arrive pas à lancer le programme, il manque une dépendance, je sais pas laquelle, est-ce que tu peux en regarder? La personne va télécharger donc l'archive, elle va regarder, elle va juste lancer LDD sur ton programme. Ouais. Et en fait, ton programme peut exécuter, enfin va être lancé en fait, parce que le linker a été configuré pour ne pas afficher les dépendances, et du coup va exécuter, ton binaire sera exécuté sur la machine de la personne. Alors que LDD, au final, tu te dis juste, c'est juste théoriquement un programme qui t'affiche les dépendances, quoi. Et oui. C'est un peu terrible. Donc, je vous invite à regarder l'article un peu plus en détail. Il explique un peu mieux comment faire et comment reproduire. Alors, moi, j'ai pas réussi à compiler le projet qu'ils utilisent pour le linker, mais peut-être que c'est peut-être qu'on est un peu trop en avance.
Bah, sur Xerbo est 3 jours, c'est ce que j'allais dire.
Il est 3 jours pour le coup. Mais également, en fait, il vous dit, ouais, il vous donne quelques scénarios pour déclencher ça, on va dire. C'est assez pratique, quoi. Et donc, en fait, le meilleur moyen d'éviter ça, c'est d'utiliser un outil similaire qui s'appelle LDD Tree, qu'en fait, moi, j'utilise par défaut, qui est la même chose que LDD, sauf qu'en fait, lui, il lit réellement les entêtes. En fait, il appelle pas le linker ou autre. Et il vous affiche en plus de ça un affichage sous forme d'arbre en fait des dépendances plutôt qu'une liste plate, quoi. Et de base c'est un peu plus sympa, quoi. Donc c'est aussi du bash, mais c'est du bash qui fait du read LF et c'est oui. Du bash, bah voilà, quoi.
Ok.
Donc bon, voilà.
Amusant.
Un peu surprenant.
Ouais. On termine avec 2 petits liens de fin d'épisode. Un lien de Arnaud, David, autour de JSON et curl. David, tu peux nous en parler peut-être?
Ouais, bah du coup, je pense que tout le monde connaît curl, ou j'ose espérer de nos jours, je dirais. Et en fait, il y a une demande qui était remontée par la communauté curl via GitHub, qui disait amenez-nous le support du JSON avec curl, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, quand vous faites un curl et que vous souhaitez poster du JSON, donc il y a le --- data avec les headers qui vont bien pour dire c'est du content type application JSON qui va bien. Bon, autant se dire les choses, c'était un peu pompeux juste pour envoyer du JSON. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amené cette... Alors, j'ai noté le numéro, mais c'est l'option numéro 245 du command line de curl qui s'appelle le --- JSON et qui permet... Finalement, c'est juste un alias, --- JSON, un alias qui --- data avec les headers, etc. Voilà, grosso modo. Et donc, je pense que ça arrive dans la release 7.86 de curl pour le mois prochain, quoi.
Ah, c'est cool, ça. Voilà.
Donc, c'est juste en envoi, hein. C'est pour poster du JSON, c'est pas en retour. D'accord. Donc, il n'y a pas de prettier ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour simplifier l'envoi.
Tu veux dire qu'on devra toujours faire le pipe JQ?
Et bien, figure-toi qu'il est sur le lien vers le blog de Daniel. Le dernier exemple, c'est curl je poste pipe JQ pour aller voir ce que tu as dans ta réponse.
Une classique.
Alors en fait, je crois qu'ils ont, ils ont aussi, ouais, effectivement, une RFC. Il me semble que c'était ça. J'ai pas trop regardé, mais une RFC en fait pour afficher du JSON en fait dans le terminal de manière un peu comme ce que fait HTTPI ou d'autres outils, en fait, éviter à chaque fois de faire un curl pipe GQ, ce genre de choses. En fait, d'avoir un support JSON un peu mieux. Apparemment, c'est une discussion qui, à chaque fois qu'elle est lancée, génère beaucoup de commentaires et du coup, elle n'a jamais été vraiment implémentée ou autre. Et donc là, en fait, c'est une énième relance du créateur pour demander des avis ou si d'autres ont d'autres idées peut-être à ajouter. Donc voilà, pour avoir un meilleur support de JSON dans curl.
Du coup, ça nous fait une transition toute faite parce que moi, c'est vrai qu'historiquement, je fais du curl, pipe et GQ. Donc GQ qui est un outil qui prend du JSON et qui fait un pretty print avec des couleurs et des sauts de ligne au bon endroit, des tabulations. Et en fait, cette semaine, il y a... je cherche le nom de cette personne. About, une personne dont on va vous dire le nom dans 5 minutes.
Paul Julius Martinez.
Voilà. Ouais, a priori, Paul Julius Martinez, qui a publié un outil qu'il a codé en Rust, tiens, qui s'appelle JLS, donc J-L-E-2-S, donc c'est un peu less pour le JSON. Et donc, vous faites JLS sur un fichier, et là, au lieu d'avoir un peu comme quand vous faites juste JQ sans faire de query dedans, au lieu d'avoir juste la coloration syntaxique, vous allez pouvoir naviguer avec les flèches, replier des objets ou des tableaux. Et en vrai, c'est cool. Je l'ai installé cette semaine. Et du coup, le premier truc que j'ai essayé, c'est le faire sur un fichier local. Mais après, forcément, j'ai fait un curl pipe JLS. Ouais. Et du coup, vous avez directement la possibilité de replier, naviguer, faire du slash, pour un peu comme dans less, pour faire de la recherche, dans un gros fichier JSON. Et c'est vrai que quand vous avez des endpoints avec des trucs assez fat, ça remplace un peu ce que je fais souvent avec Firefox, où j'ai une URL dans un browser, et puis je peux replier, déplier, voir un peu ce qui se passe, faire de la recherche. Et là, en plus, je peux le faire en ligne de commande, donc potentiellement, vu que je peux mettre un curl avant, je peux rajouter de l'autant ou je sais quoi.
Il y a un truc qui est trop trop bien, c'est que en bas, il te précise en fait la chaîne de caractères si tu veux y accéder directement. Donc il te met,
oui, c'est vrai, oui.
Ah.
Avec les
Donc quand tu te balades, en fait, il actualise, et du coup tu as le input, par exemple là tu as input.script et tu as le JSON pass, ouais. Ce qui est trop bien.
Carrément.
Et donc installez-le, c'est vraiment cool. J'ai pas vu si c'était packagé encore pour des distros et autres. Moi je l'ai installé en faisant un cargo install donc via l'outil de Rust, mais c'est vraiment cool. Franchement tester, c'est l'essayer, c'est l'adopter. Bref, on en a terminé pour cet épisode. On va se quitter sur le choix musical de David. David, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton choix musical ?
Alors, le choix musical pour cet épisode, c'est un groupe qui n'existe plus d'ailleurs, mais qui reste assez récent, qui s'appelle Alabama Shakes, et la chanson, c'est Don't Wanna Fight. Je pense que, personnellement, c'est une chanson que j'adore écouter quand je suis en train de coder, comme beaucoup de monde, je pense. Mais voilà, la personnalité de cette dame, de cette chanteuse, me parle beaucoup. Et puis, tous les principes qu'elle pourrait avoir en arrière-plan, je dirais, me parlent énormément. Donc voilà, j'ai fait ce choix de Alabama Shakes.
C'est un groupe que j'écoute de temps en temps, c'est cool. Et ils sont séparés, Kenny ?
Ouais, ils sont séparés, et puis je pense qu'elle est partie sur une carrière solo de son côté. Okay.
D'accord. Cool. On vous incite tous et toutes à écouter cette musique de David. Messieurs, je vous dis et on vous dit au revoir. On vous dit à la semaine prochaine. Et on se retrouvera avec David. Et donc, des bisous à tous les auditeurs, auditrices. Et à la semaine prochaine. Au revoir.
À plus.
Cool. Au revoir. Bye bye.